Il avait cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux, et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quelle histoire, n'est-ce pas? Il y aurait tant à en dire que nous pourrions y passer tout le sabbat, mais rassurez-vous, vous serez rentrés à temps pour déjeuner. Loin de moi l'idée de décortiquer les 42 versets que nous venons de lire. Non, j'aimerais me focaliser en particulier sur la rencontre de Jésus avec cette femme et surtout sur le dialogue qui s'installe entre eux. Alors, vous l'aurez remarqué, le récit commence par un voyage. Jésus quitte la Judée pour retourner en Galilée et il traverse la Samarie. Pour le juif qu'il est, le voilà donc en quelque sorte en terre étrangère. Et là, fatigué par son voyage, il s'assied près d'un puits. Pour les premiers lecteurs de l'Évangile, pour qui est familier de l'Ancien Testament, cette scène est parlante et elle éveille des souvenirs. Elle évoque au moins 3 récits. 3 récits qui débutent tous de la même manière. Le voyage d'un homme vers une terre étrangère qui aboutit près d'un puits. C'est près d'un puits que le serviteur d'Abraham, chargé de trouver une femme pour Isaac, découvrira Rebecca. C'est près d'un puits que Jacob va tomber amoureux de Rachel. C'est encore près d'un puits que Moïse rencontre les 7 filles du prêtre de Madian, parmi lesquelles Séphora, sa future épouse. De plus, ce puits-ci est chargé d'histoire, puisqu'il a appartenu au patriarche Jacob, un patriarche qui est cher au cœur des Samaritains. Le fait que cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine ait lieu près de ce puits n'a donc rien d'anodin. Elle évoque une rencontre amoureuse qui va conduire à une union. Alors, rencontre amoureuse, certes, mais vous comprendrez facilement qu'il nous faut passer ici du premier degré au second, du sens littéral au sens symbolique. Et c'est d'ailleurs tout le génie du 4e évangile, qui est réputé d'ailleurs pour son caractère spirituel. Chargé de symboles et de métaphores, il nous invite constamment à passer du sens immédiat, littéral, au sens métaphorique et symbolique. Or, symboliquement, l'image du mariage, de l'union amoureuse, est déjà appliquée dans l'Ancien Testament pour les relations de Dieu avec son peuple. Une image qui est d'ailleurs reprise dans le Nouveau Testament. Jésus va lui-même raconter plusieurs paraboles qui parlent de noces. Lui-même, à plusieurs reprises, sera désigné comme l'époux. Mieux encore, dans ce même évangile, au tout début, pour inaugurer son ministère, Jésus va accomplir un premier miracle, lors des noces de Cana. Dès le départ, donc, le ton est donné. Un premier signe symbolique par lequel Jésus veut nous faire entrevoir ce que sont les véritables noces spirituelles, celles de Dieu avec son peuple, celles du Christ avec son Église, le peuple et l'Église étant en fin de compte constitués par chaque être humain qui voudra bien accepter cette alliance et rentrer dans cette union. Vous l'avez constaté ici, l'histoire ne se termine pas par un mariage littéral, mais bien par une alliance spirituelle, une adhésion au Christ. Cette adhésion au Christ se fait d'ailleurs à travers une rencontre et une expérience personnelle avec lui, d'abord la Samaritaine, puis les Samaritains, un cheminement donc qui se veut à la fois un chemin de découverte et un itinéraire de foi. Alors vous le savez bien, chaque rencontre et chaque expérience avec Jésus est unique et différente, mais dans cet épisode-ci, ce cheminement correspond à la découverte progressive de qui est réellement Jésus. Et entre le début et la fin de l'histoire, il y a un prodigieux chemin qui est parcouru. De juif qu'il était, avec toutes les connotations négatives qui sont attachées à ce terme, eh bien Jésus est devenu le sauveur du monde. En fin de compte, cet épisode, comme tous ceux qui sont relatés par Jean, sert le but de son évangile, la raison pour laquelle il écrit. Tout à la fin de l'évangile, il nous est dit « Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » C'est ce qui est arrivé aux Samaritains ici, qui ont découvert en Jésus non seulement leur propre sauveur, mais encore le sauveur du monde. Et ils reconnaissent par là son universalité. Et dès lors, nous comprenons mieux pourquoi Jésus devait ou voulait traverser la Samarie. Il fallait que Jésus traverse la Samarie. En réalité, pour passer de Judée en Galilée, il aurait pu prendre un autre chemin et il aurait pu remonter la vallée du Jourdain. C'est d'ailleurs ce que faisaient les Juifs pieux, eux qui évitaient les Samaritains et la Samarie, parce qu'ils les considéraient comme des gens méprisables, infidèles, idolâtres, impurs, eux qui ne voulaient surtout pas solliciter l'aide des Samaritains. Mais Jésus, lui, il fait tout l'inverse. Il s'arrête en pleine Samarie, et là il va solliciter l'aide d'une femme venue puiser de l'eau. Donne-moi à boire. Une attitude qui va d'ailleurs surprendre la femme, puisque Jésus enfreint ainsi plusieurs tabous de taille. Et on le voit à travers sa réponse à elle. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, une femme, une samaritaine? En s'adressant à elle, en effet, Jésus transgresse les codes sociaux, culturels et religieux de son temps et de son peuple. Plus tard, d'ailleurs, les disciples vont être surpris aussi. Et s'ils n'osent rien dire, ils n'en pensent pas moins. Au fond, cette femme, comme les disciples, a une réaction plutôt humaine. Elle voit ce qui empêche la relation, ce qui crée de la distance, ce qui oppose homme-femme, juif-samaritain, Jérusalem-Mont-Garizim. Alors je me pose une question. Comment nous réagissons-nous la plupart du temps, de manière spontanée? Est-ce que nous ne voyons pas, nous aussi, bien souvent, d'abord ce qui oppose et ce qui crée de la distance? Ne sommes-nous pas, nous aussi, souvent formatés par des codes sociaux, culturels, voire religieux? Mais l'attitude de Jésus, elle est tout autre. Il ne relève pas les oppositions. Ça ne bouge plus. Il ne relève pas les oppositions, mais il répond par des choses qui unissent, qui permettent une vraie rencontre, qui permettent la relation, la communion, la réconciliation. En faisant tomber les murs qui séparent, les cloisons qui emprisonnent et qui empoisonnent, Jésus se veut rassembleur, unificateur, pacificateur et réconciliateur. Entre Dieu et moi, entre moi et les autres, mais aussi avec moi-même. Et il faut souligner cette liberté de Jésus qui traverse les quatre évangiles, sa volonté de placer l'être humain au centre et au cœur de ses préoccupations, outrepassant tabous et préjugés, faisant fi de tous les codes qui existent. Son souci aussi d'ailleurs pour les marginaux, les méprisés, les exclus de la société et de la religion bien-pensante. Cette liberté préside d'ailleurs à l'enseignement que Jésus veut délivrer ici, un enseignement qui est lui-même libérateur, et nous y viendrons un peu plus loin. Mais parlant de libération, j'aimerais rendre hommage à cette femme samaritaine, en la libérant précisément de tous les clichés faciles dans lesquels on l'enferme facilement. Que de commentaires évacuent les enseignements vitaux de ce récit pour n'en faire qu'une soi-disant leçon morale que Jésus donnerait à une femme dépravée, sorte de mante religieuse ou veuve noire, multirécidiviste, qui après avoir évacué 5 maris, ne se donnerait même plus la peine d'épouser le 6e. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à ajouter des choses qui ne se trouvent pas dans le texte pour l'accabler encore plus, comme affirmer par exemple qu'elle était coquette et séductrice, que si elle vient seule au puits à midi, c'est pour échapper au mépris des autres. Luther lui-même la taxait de paillarde. Alors libre aux esprits lubriques et malsains de fantasmer sur la vie de cette femme, mais à mon sens, ils passent à côté de ce que le récit veut réellement révéler. Ils trahissent le texte, et en plus, ils font insulte à l'évangile qui vole bien plus haut que ça. Car en réalité, le texte ne dit rien de tout cela. À aucun moment, en aucun cas, Jésus ne juge ou ne condamne cette femme. Pas même un reproche. Par contre, il lit en elle sa soif insatiable. Soif de vie véritable, soif d'amour véritable et soif de spiritualité véritable. Et de quémandeur qu'il était au départ, eh bien Jésus se fait donateur. Oui, il est celui qui peut étancher durablement la soif de cette femme. Et c'est ce qui ressort de leur conversation. Une conversation qui a quand même quelque chose d'insolite, de déconcertant. Alors qu'il est question d'eau, vous le voyez ici en 5 petits versets, alors qu'il est question d'eau, Jésus semble sauter du coq à l'âne et passe à cette fameuse question de Marie. Et puis, c'est la femme qui bifurque elle-même aussi soudainement pour parler d'adoration. Tout cela semble un peu sans queue ni tête. Que nenni, bien sûr, c'est méconnaître l'évangéliste. Loin d'être décousu, ce dialogue est au contraire savamment construit. Et il est parfaitement cohérent. Le tout, c'est de découvrir ce qui unit les 3 mots-clés de ce dialogue. L'eau, le mari et l'adoration. Alors, j'attaquerai par le 2e mot. En pleine discussion sur l'eau, et alors que cette femme demande à recevoir cette fameuse eau vive, Jésus donne au dialogue une tournure inattendue. « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Réaction de la femme, « Je n'ai pas de mari. »« Tu dis bien, » répond Jésus, « tu en as eu 5 et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Que vient faire en pleine eau vive cette histoire saugrenue de Marie? Alors, pour la comprendre, il faut une nouvelle fois changer de plan et se rappeler que l'évangéliste a le goût des métaphores. En vérité, cette femme samaritaine est une figure de la Samarie. Son destin se fond d'ailleurs dans celui de son peuple. Et à la fin de l'histoire, vous voyez qu'elle s'efface pour faire place à son peuple, les Samaritains, qu'elle représente et à la Samarie qu'elle personnifie. Alors, notre langue française, tout comme le grec du Nouveau Testament, ne permet pas de prendre conscience de ce qui se joue dans ce dialogue. Mais Jésus et cette femme, ils parlent la même langue. Une langue dans laquelle Marie se dit Baal. Et voilà qui devrait chatouiller vos oreilles, car Baal, ça veut dire Marie, mais ça veut dire aussi les divinités cananéennes. Avec la plus grande d'entre elles d'ailleurs, le fameux dieu Baal, bien connu de l'Ancien Testament. Et par sa frontière commune avec la Phénicie au nord, la Samarie avait d'ailleurs subi de plein fouet cette idolâtrie cananéenne et s'était laissée contaminer par les cultes voués au Baal. Et même si à l'époque de Jésus c'était de l'histoire ancienne, la mauvaise réputation de la Samarie restait tenace. Par ailleurs, l'Ancien Testament raconte que lorsque le roi d'Assyrie a conquis la Samarie, il y a bien longtemps, en 721 avant Jésus-Christ, il a déporté sur la terre de Samarie des peuples vaincus qui venaient d'autres contrées. Et heureux hasard ou pas, ces peuples étaient au nombre de 5. Vous pourrez lire ça à votre aise si vous le souhaitez. C'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 18, je vous le résume. Il nous est dit que le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sépharvaïm, qu'il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites, qui eux-mêmes étaient exilés en Assyrie. Que chacune de ces nations faisait ses propres dieux et qu'il mettait ses dieux dans les hauts lieux que les Samaritains avaient bâtis. Le texte nous dit aussi que ces gens apprirent à craindre le Dieu des Israélites, mais qu'ils continuaient aussi à servir leur propre Dieu. Voilà peut-être une piste pour comprendre cette histoire des cinq maris. Qu'en est-il du sixième ? Celui qui est l'actuel, mais qui n'est pas un mari. N'équivaudrait-il pas à la religion des Samaritains, qui ne peut être considérée comme un véritable mariage avec le vrai Dieu ? Comment manque-t-il donc à cette femme et à son peuple pour vivre une telle alliance, une union d'amour pleinement épanouissante et satisfaisante dans le chef de Dieu, mais aussi dans le chef de son peuple. Une union telle que Jésus la conçoit et telle que cette femme en rêve. En vérité, c'est tout l'objet du dialogue. Cinq maris plus un, cinq plus un, vous savez compter comme moi, ça fait six. Et dans la Bible, le 6, c'est un chiffre incomplet, un chiffre matériel auquel il manque le spirituel, un chiffre humain auquel il manque le divin. Le chiffre de la plénitude, vous le savez, c'est le 7. Et dans une série de 7, le 7e élément est d'ailleurs différent des 6 précédents. Et un exemple que vous connaissez tous, qui est cher au cœur des adventistes, c'est le sabbat, le 7e jour. Un 7e jour qui vient apporter sa plénitude à tous les autres. Or, voici que justement se présente à cette femme le 7e homme, Jésus, l'époux spirituel, l'époux véritable qui vient lui apporter l'amour véritable. Et puisque ce récit se déroule sur arrière-fond d'ancienne alliance et de mariage, nous pouvons aussi faire le rapprochement entre cette Samaritaine et l'épouse infidèle du livre d'Osée. Épouse infidèle qui, rappelons-le, dans le livre d'Osée, figurait le peuple de Dieu, tout comme cette femme ici figure son propre peuple. D'où la question d'ailleurs sur la vraie religion et le culte du vrai Dieu qui est aussi le vrai mari. Un vrai mari qui va d'ailleurs tout mettre en œuvre pour reconquérir cette épouse infidèle. Et dans le livre d'Osée, vous pourrez aussi relire ça à votre aise si vous le désirez, Dieu déclare qu'il va séduire cette épouse infidèle en parlant à son cœur. Et il annonce qu'elle va revenir à lui. Et le texte décrira les fruits de ce retour, autrement dit de cette conversion. Cette épouse va retrouver toute sa fertilité et sa fécondité. Et c'est très intéressant, car ici, dans cette histoire, il est aussi question de fertilité. À ses disciples, Jésus va parler d'une moisson qui est déjà prête. Les champs sont blancs pour la moisson, va-t-il leur dire. Autrement dit, en clair, cette moisson symbolise la conversion et la foi des Samaritains. Alors tout cela me pousse à m'interroger. Et vous aussi, j'espère. Quel genre d'épouse notre Église est-elle pour le Seigneur ? Quelle épouse sommes-nous pour le Seigneur ? Chacune et chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes, car vous l'aurez compris, il n'est pas question de genre ou de sexe dans cette histoire, mais de relation. Si Jésus vivait aujourd'hui, lui faudrait-il passer par ici ? Et s'il venait parler à notre cœur, que nous dirait-il ? S'il nous demandait « Donne-moi à boire », saurions-nous comprendre qu'en réalité il nous dit « J'ai soif de toi » et nous, avons-nous soif de lui ? En cette femme, il y a chacun de nous et j'espère que nous nous reconnaissons un peu ou beaucoup en elle. Ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est de voir comment Jésus lui parle, comment il l'amène à se dévoiler elle-même, mais surtout à découvrir qui il est lui, réellement. Jésus est celui qui peut lui offrir cet amour, capable de désaltérer profondément et durablement le cœur humain. Un amour qui deviendra d'ailleurs en elle une source abondante, jaillissant en vie éternelle. Et juste une petite remarque, pour l'évangéliste Jean, la vie éternelle n'est jamais quelque chose de séparé ou d'éloigné de cette vie-ci. C'est la vie en plénitude, la vie en abondance qui est faite pour durer et ne jamais s'arrêter. La vie dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Qui ne voudrait pas d'une telle vie ? En parlant à son cœur, Jésus veut qu'elle découvre en lui le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Connaissez-vous le don de Dieu ? Réellement ? Alors vous êtes bénis, mes amis. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu savais combien Dieu t'aime. Si tu pouvais expérimenter cet amour et en vivre. Découvrir le don de Dieu, l'expérimenter, l'accueillir, ce n'est pas du tout évident, surtout dans notre monde. Mais heureusement pour nous, et heureusement pour le monde, le don de Dieu, l'amour de Dieu, a un nom et un visage. Jésus. La première grande révélation de Jésus à cette femme porte donc sur l'amour. La deuxième sur la vraie spiritualité et la liberté qu'elle implique. Amour, liberté, les deux piliers que Jésus est venu apporter à l'humanité. Un amour qui libère, liberté d'aimer et d'être aimé. Et en réalité, ces deux piliers sont intimement liés. Et c'est pourquoi vient ensuite la question religieuse. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Où est le vrai culte ? De même que cette femme n'arrive pas à trouver l'amour véritable, elle s'interroge sur la religion véritable. Nous n'avons pas ce problème, n'est-ce pas ? Pour nous, les choses sont évidentes. Bien, j'espère que non, précisément, car rien de pire que d'être pétri de certitude, surtout en matière religieuse. C'est ici et pas ailleurs. C'est comme ça et pas autrement. Quelle est la religion véritable ? Quel est le culte vrai ? En vérité, cette question n'a pas pris une ride depuis 2000 ans. Et en ce sens, cette femme est très moderne. Décidément, Jésus ne pouvait rêver meilleure interlocutrice. Et c'est tant mieux, car ce qu'il va lui révéler à présent, c'est le point culminant, le sommet du texte. Si on regarde comment ces 42 versets sont construits, on voit qu'il s'agit de ce qu'on appelle une structure concentrique. Un peu de technique. Structure concentrique, c'est-à-dire que tout converge vers le centre du texte qui en devient le point culminant, comme une pyramide. Et qu'est-ce qu'on trouve au sommet de ce texte ? Eh bien, c'est l'adoration en esprit et en vérité, et la révélation de qui est Jésus. Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est là, autrement dit, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cette déclaration, mes amis, c'est de la dynamite. La femme s'inquiète de religion vraie. Jésus lui parle de spiritualité véritable. Quelle libération ! Le seul espace sacré, le seul vrai temple, c'est le cœur de l'être humain. C'est là que doit avoir lieu la rencontre avec le divin. Ce qui compte, c'est la vérité de la relation intime de chacun avec Dieu. En nous introduisant dans cette spiritualité, Jésus nous aide aussi du même coup à relativiser la religion extérieure et il nous met aussi à l'abri de toute tentative d'exclusivisme, de toute forme d'intégrisme religieux. L'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Se pose alors la question, que signifie adorer en esprit et en vérité ? Chouraki traduit « adorer dans le souffle et la vérité ». Alors, si vous vous demandez ce que cela signifie, eh bien, tournez-vous vers Jésus et voyez comment il a vécu lui-même. L'adoration en esprit et en vérité a été parfaitement illustrée par la vie de Jésus. Il a d'ailleurs raison de déclarer qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui a vécu dans le souffle, dans l'Esprit de Dieu. Lui qui est la vérité, l'Amen de Dieu. Amen en hébreu, c'est Emet. C'est la vérité, oui, mais c'est aussi ce qui est fiable, ce qui est solide, digne de confiance. On peut s'appuyer dessus. Alors, autre question. En nous regardant vivre, Dieu pourrait-il dire Amen ? Quiconque a rencontré Jésus et quiconque a découvert en lui l'époux véritable, quiconque s'est uni à lui pour vivre des noces véritables, en réalité, cette personne ne peut que vivre et adorer en esprit et en vérité. La rencontre avec cet amour divin, je l'ai dit, ne peut se faire et se vivre qu'au plus intime de soi. Et nous avons ici un autre symbole dans cette histoire. C'est ce que symbolise le puits, la profondeur de l'être. Alors ce puits de Jacob, il était profond, plus de 30 mètres. Et au fond de ce puits coulait une source d'eau vive. Et ici, vous comprenez tout le symbole encore une fois. C'est dans la profondeur de notre propre être que nous pouvons trouver cette source d'eau vive. Et puis, il y a encore cette autre indication. C'était environ la sixième heure. Autrement dit, midi. Et midi, encore une heure symbolique. À midi, quand le ciel n'est pas voilé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien, le soleil est au zénith. Essayez de trouver de l'ombre quand le soleil est au zénith. Impossible. Impossible donc de se cacher ou de s'abriter. Autrement dit, midi, c'est l'heure du dévoilement, de la révélation. Midi, c'est aussi l'heure de la pleine lumière. Autrement dit, de la lucidité. En deux mots, midi, c'est l'heure de la vérité. L'heure de s'arrêter et de regarder dans la profondeur de notre être, autrement dit, dans notre propre puits, pour découvrir quelle est notre soif profonde. De quoi avons-nous réellement soif? Et surtout, comment étanchons-nous cette soif? Est-ce que nous nous contentons de nous désaltérer au coup par coup et d'avoir encore soif, d'aller boire à toutes sortes d'eau qui donne elle aussi encore soif? Ou alors cherchons-nous à être abreuvés au plus profond de notre être? Reconnaissons-le, notre société et notre monde privilégient les puits scellés et nous poussent à vivre à la surface de nous-mêmes en devenant des êtres superficiels. Et quand le puits est scellé, eh bien, il n'y a plus qu'à aller boire à des citernes crevassées, pour finir par ressembler soi-même à une citerne crevassée. Et Dieu se plaint d'ailleurs, par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, « Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et dans un premier temps, cette Samaritaine incarne bien les réactions humaines classiques. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où la tiendrais-tu donc cette eau-là? Autrement dit, tes discours, c'est bien joli, mais à quoi ça me sert? Elle a les pieds sur terre, elle sait ce qu'elle veut, elle est réaliste, pragmatique. Et c'est un peu comme les disciples qui ne comprennent rien à cette histoire de nourriture. Ne sommes-nous pas souvent un peu pareils? Ne sommes-nous pas d'abord réalistes, pragmatiques, les pieds sur terre? Ce qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas d'abord du matériel? Il suffit d'écouter nos prières. Mais en même temps, comme le psalmiste, nous soupirons. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et nous chantons, nous le ferons tout à l'heure, j'ai soif de ta présence. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Résultat des courses, la femme laisse là sa cruche et court annoncer la bonne nouvelle à ses concitoyens. Plus besoin de cruche, puisqu'elle a découvert en elle cette source d'eau vive. Une source au plus profond de soi, bienfaisante, apaisante, désaltérante, qui jaillit de l'intérieur et déborde vers l'extérieur. Mon vœu le plus cher pour chacun, chacune d'entre nous, c'est de pouvoir connaître le don de Dieu et qui est celui qui nous offre à boire. C'est de pouvoir découvrir la source d'eau vive au plus profond de notre être, de la laisser gonfler de l'intérieur pour qu'elle puisse déborder vers l'extérieur. Le monde a tellement besoin de cette eau, mes amis. N'hésitons donc pas à la partager, d'autant que cette eau est gratuite et que cette source ne sera jamais tarie. Amen.